VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, nouvelle violence dans le territoire de Beni.
En République centrafricaine, au moins 3 morts et 2 blessés dans des échanges de tirs hier dans le quartier PK5 à Bangui.
L'ONU exprime sa préoccupation sur la situation dans les régions anglophones du Cameroun à quelques jours de la présidentielle du 7 octobre.
Au Togo, inquiétude sur la santé de Nicodème Abia, l'opposant en grève de la faim depuis 15 jours.
Ici aux États-Unis, le New York Times accuse le président Donald Trump d'avoir usé de manœuvres d'évasion fiscale pour son père et la compagnie familiale.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 4 miliciens Maï-Maï ont été tués hier dans une attaque contre une position de l'armée et 4 cadavres de personnes enlevées ont été découverts dans la région de Beni. Des détails avec Nanit Talani.
L'armée congolaise affirme avoir repoussé une attaque de miliciens Maï-Maï contre une position militaire à Karuruma, dans le territoire de Beni, où 4 miliciens ont trouvé la mort. Par ailleurs, 4 cadavres de personnes enlevées vendredi dans une attaque attribuée aux rebelles ADF à Moukoko ont été découverts, a déclaré Donaki Wana, administrateur du territoire de Beni dans le Nord Kivu. Le dernier bilan est porté à 6 civils tués et des disparus. Le 22 septembre, une autre attaque attribuée au groupe ougandais ADF dans la ville de Beni avait causé la mort de 14 civils et de 4 soldats congolais. En 2017, le baromètre sécuritaire du Kivu, publié par Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo basé à New York, a recensé plus de 130 groupes armés, locaux et étrangers, toujours actifs dans l'est de la RDC.
Un opposant congolais visé récemment par un projet d'assassinat par 2 anciens agents des services de renseignement français a dénoncé mardi le classement sans suite, incompréhensible selon lui, de la plainte qu'il avait déposée en 2015 après avoir été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat. Les 2 ex-agents avaient été inculpés à Lyon le 12 septembre pour association de malfaiteurs et détention d'explosifs par la justice française. Le général Ferdinand Mbaou, 62 ans, un farouche opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, vit réfugié en France depuis près de 20 ans.
En République centrafricaine, au moins 3 personnes ont été tuées et 2 blessées mardi lors d'échanges de tirs à l'arme légère dans le quartier musulman et commerçant du PK5 à Bangui, selon des sources hospitalières et des habitants du quartier. À l'origine des tirs, une altercation entre un membre du groupe d'autodéfense de Nimeri Matar Ndjamous, alias Force, et des hommes armés non identifiés.
L'ONU reste préoccupée par la situation dans les régions anglophones du Cameroun et par l'impact de la violence sur la population civile, a déclaré mardi son porte-parole adjoint Farhan Haq à quelques jours de l'élection présidentielle qui est prévue dimanche. Nous exhortons toutes les parties à respecter pleinement le droit international humanitaire et les droits de l'homme, à garantir la protection des civils et à faciliter l'accès humanitaire sans entrave aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, a ajouté le porte-parole lors du point de presse quotidien de l'ONU.
En Mauritanie, l'opposition a dénoncé hier la non-tenue lundi de la première session de l'Assemblée nationale et le maintien en détention préventive de Biram Da Abeid. Le militant anti-esclavagiste a été élu aux législatives de septembre. Le point avec Abdourahmane Dia.
La Constitution prévoit la tenue de la première session de l'Assemblée nationale le premier jour ouvrable du mois d'octobre. Donc, pour le porte-parole de l'opposition, le gouvernement a violé la loi. Le parti au pouvoir dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée avec 89 sièges sur 153. L'opposition dite radicale compte une 30aine de députés, dont 14 issus du parti islamiste Tewassoul. Par ailleurs, Mohamed Ould Mouloud a dénoncé le maintien en détention préventive de Biram Da Abeid Ahmed, député élu en septembre pendant qu'il était en prison. Il est toujours en instance de jugement après une plainte d'un journaliste l'accusant de calomnie, d'injures et d'incitation à la haine. Des dizaines de partisans de Biramda Abeid, président de l'association anti-esclavagiste IRA, ont manifesté lundi devant le siège de l'Assemblée pour réclamer sa libération. Ils ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène.
Au Burkina Faso, 3 gendarmes ont été grièvement blessés lundi soir dans une attaque contre un poste de gendarmerie à La Fiera, une commune rurale de la province du Sourou, située au nord de Ouagadougou, à une centaine de kilomètres de la frontière malienne. Selon une source sécuritaire, cette attaque, qui a duré un peu plus de 3 heures, a été perpétrée par une dizaine d'individus armés non identifiés.
Au Togo, Nicodem Abia est mal en point et doit être pris en charge dans une unité sanitaire. C'est à cette conclusion qu'est parvenu le médecin soignant de l'opposant togolais en grève de la faim depuis 15 jours. Nicodem Abia a finalement accepté une évacuation sanitaire vers le Ghana, mais finalement c'est dans une clinique à Lomé qu'il a été admis. Correspondance de Kayi Lasson.
Nicodem Abia, l'opposant togolais en grève de la faim depuis 2 semaines, n'a pas pu être évacué vers le Ghana comme l'ont souhaité ses compagnons de lutte car son état de santé devenait critique. Transporté à bord d'une ambulance vers le Ghana, arrivé à la frontière, Nicodem Abia n'a pas pu la franchir faute d'une autorisation du gouvernement togolais. Les formalités administratives n'ayant pas abouti, après plus de 2 heures d'attente, il a été décidé de l'interner dans une clinique à Lomé, du moins pour la nuit. En sit-in devant l'ambassade des États-Unis, puis devant celle du Ghana à Lomé, le président du parti Les Démocrates demande la libération des détenus politiques et le respect de la feuille de route de la CEDEAO. La grève de la faim, une approche assimilée à la comédie par le ministre togolais de la Sécurité, Yark Damhan. Ce dernier estime que Nicodem Abia veut forcer la main à la justice togolaise. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Gabon, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu lundi dans les établissements publics. Elle est retardée par des élections législatives et locales prévues samedi. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Les écoles publiques de la maternelle au secondaire sont vides. L'administration est paralysée par les élections, affirme Sami Magumbu, enseignant dans le privé dont l'établissement n'a pas ouvert. Pourtant, samedi dernier, Francis Nkéan Dzigué, ministre de l'Éducation, avait assuré que les enfants reprendront le chemin de l'école dès lundi. Mais le ministre lui-même est en campagne pour briguer la députation de Bolosoville dans le nord du pays. Beaucoup d'enseignants chefs d'établissement sont eux-mêmes engagés dans ces élections, explique le syndicaliste Louis-Patrick Mombo de la CONACICED, la Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale. De nombreuses écoles et lycées ont été transformés en lieux de retrait de cartes d'électeurs et deviendront des bureaux de vote pour les législatives et les locales de samedi, qui sont les premiers scrutins nationaux depuis la présidentielle de 2016.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, le New York Times a affirmé hier que le président Donald Trump avait usé de manœuvres d'évasion fiscale et a eu recours carrément à la fraude pour augmenter considérablement sa fortune, commencée avec l'argent de ses parents. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Monsieur Trump aime à dire qu'il s'est fait tout seul, commençant avec un prêt $1 million de son père et qu'il a acquis sa richesse grâce à ses investissements et accords immobiliers qu'il a négociés. Mais dans un long article très détaillé, le New York Times dit que Monsieur Trump a reçu $413 million de son père, Fred Trump, un magnat de l'immobilier à New York. Ce dernier aurait commencé à faire bénéficier de son argent à ses enfants dès leur plus jeune âge des fonds que le président et ses frères et sœurs continuent de recevoir à ce jour. Dans un communiqué publié hier soir, la Maison-Blanche a trouvé triste, 20 ans après la mort de Fred Trump, de voir le New York Times lancer une telle attaque trompeuse contre la famille Trump, ajoutant que le fisc américain avait, il y a plusieurs décennies, revu et accepté toutes ces transactions. Un avocat du président avait auparavant qualifié de 100% fausse les allégations d'évasion fiscale et de fraude du quotidien new-yorkais.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, retourne dimanche en Corée du Nord pour relancer les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Il va rencontrer cette fois-ci le dirigeant Kim Jong-un, qui avait boudé sa dernière visite. Ce nouveau voyage à Pyongyang s'inscrit dans une mini-tournée dans la région, dont des étapes au Japon, en Corée du Sud et en Chine, selon la porte-parole du département d'État, Heather Nauert.
En Indonésie, près de 1400 personnes ont péri dans le séisme suivi d'un tsunami sur l'archipel indonésien des Célèbes, selon un nouveau bilan, l'ONU avertissant de besoins immenses à la fois pour les survivants et pour les secours. Près de 200 000 personnes nécessitent une aide humanitaire d'urgence, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, parmi lesquels des dizaines de milliers d'enfants. On estime à 66 000 le nombre de logements qui ont été détruits vendredi par la secousse de magnitude 7,5 et le raz-de-marée destructeur qu'elle a engendré. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En République démocratique du Congo, la compagnie minière Ivanhoe Mines annonce avoir réalisé une découverte importante de cuivre à haute teneur sur ses permis Western Foreland à l'ouest de sa licence d'exploitation minière Kamoa-Kakula. Nommée Makoko, ceci est la troisième découverte majeure de cuivre d'Ivanhoe après celle de Kamoa et Kakula qui forment le quatrième plus grand projet de cuivre au monde. Une première estimation de ressources indépendantes pour la découverte Makoko est attendue pour ce trimestre. En Côte d'Ivoire, le kilogramme de cacao coûtera 750 francs CFA durant la campagne 2018-2019 qui a débuté hier. Ce tarif en légère hausse de 50 francs CFA a été annoncé par Lambert Kwasi Konan, le président du conseil du café cacao. Le prix du kilo chez son voisin ghanéen est près de 902 francs CFA. Les deux pays affichent une volonté de mutualiser leurs efforts pour tirer un meilleur profit dans le marché mondial du cacao et ambitionnent de coordonner leurs ventes d'ici fin janvier 2019. Et pour terminer, au Mozambique, Merck Industries a reçu un appui financier de Proparco, la filiale de l'Agence française de développement. Ce financement permettra à Merck de mettre sur pied une boulangerie industrielle. Proparco accompagnera l'entreprise mozambicaine dans le renforcement de sa gouvernance et sa gestion environnementale.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Une surprise et une confirmation lors des demi-finales de la Ligue africaine des champions.
Al Ahly a battu l'Entente sportive de Sétif 2-0 lors de la demi-finale aller. Dans l'autre rencontre, le Primeiro de Agosto a encore créé la surprise en battant 1-0 à Luanda. L'Espérance de Tunis, on rappelle qu'aucun club angolais n'a jamais disputé la finale de la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions en Europe?
Ah oui, le champion en titre madrilène chute à Moscou 1-0 devant le CSKA. De nombreux absents côté Real Madrid, notamment Sergio Ramos, Marcelo ou encore les attaquants Gareth Bale et Isco. On va aussi noter que Luka Modric, le joueur FIFA de l'année, était remplaçant au coup d'envoi. À noter le succès 5-0 des Romains contre le club tchèque du Viktoria Plzeň dans le groupe G. Le Bayern Munich a été tenu en échec sur sa pelouse, 1-0 par l'Ajax Amsterdam. Un score qui permet au Benfica à Lisbonne, qui a gagné 3-2 sur le terrain de l'AEK Athènes, de revenir dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Lyon, accroché sur son terrain par le Shakhtar Donetsk. À Hoffenheim, Manchester City était en déplacement et s'est imposé 2-1 dans les ultimes minutes. L'autre club de Manchester, United, a été incapable de battre Valence, un match nul, 0-0. Dans l'autre rencontre du groupe, la Juventus Turin a facilement battu les Young Boys de Berne réduit à 10, 3-0, un triplé de Dybala.
Nouveau match ce mercredi.
Tottenham face au FC Barcelone de Lionel Messi. À suivre également Naples qui accueillera Liverpool. Neymar et ses coéquipiers parisiens voudront rebondir au Parc des Princes face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Dortmund accueille Monaco, l'Atlético Madrid face à Bruges, le PSV Eindhoven contre l'Inter Milan, Schalke 04 en déplacement chez le Lokomotiv Moscou. Enfin, Porto accueille Galatasaray.
Un joueur centrafricain appelé en sélection.
Ah oui, le milieu de terrain de Valence, Geoffrey Kondogbia, a été convoqué par le sélectionneur de la République centrafricaine. Kondogbia avait pourtant joué avec l'équipe de France lors des catégories de jeunes et en matchs amicaux. Il a donc été appelé par le sélectionneur suisse de la Centrafrique, Raoul Savoie. L'ancien joueur du RC Lens, du FC Séville, de l'AS Monaco, de l'Inter Milan possède en effet un passeport centrafricain. Il devrait participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. avec les fauves du Bazoubangui, notamment lors de la double confrontation contre la Côte d'Ivoire. On rappelle, Idrissa, que la CAN 2019 doit se tenir au Cameroun du 15 au 13 juillet.
Justement, le président de la CAF était à Yaoundé.
Ah oui, le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad, qui a été reçu hier par Paul Biya au palais présidentiel à Yaoundé. Il a réaffirmé qu'il n'y avait pas de plan B et que c'était bien au Cameroun de dire s'il était prêt ou non pour organiser cette CAN 2019.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le Premier ministre Soumeilou Boubé Maïga a rencontré hier les chefs de village et les dirigeants des milices d'autodéfense Peul et Dogon à Mopti. C'était à la faveur de la réouverture des classes. Les Peul dénoncent des exactions de la part de groupes de chasseurs tolérés selon eux au nom de la lutte contre les djihadistes par les autorités ou l'armée, ce que dément le gouvernement. Yacouba Ouédraogo a joint Omar Guindo, journaliste à Bandiagara, présent à la rencontre.
La communauté Dogon était fortement représentée par les membres du mouvement Dana Amasagou. Donc au cours de cette conférence, parce qu'on a donné la parole à toutes les communautés, notamment la communauté Dogon qui était représentée par les Guina Dogon et la communauté Peul aussi était présente à la cérémonie. Ensuite, il y a eu l'intervention du gouverneur de la région de Mopti, Sidi Alassane Touré, qui a situé un peu le contexte dans lequel les populations vivent au niveau du centre du pays. Aussi, enfin, la parole est revenue au Premier ministre qui globalement a fait le point de la situation au niveau du centre du pays, aussi a invité groupe d'aider le gouvernement à sécuriser aussi toute la zone.
Qu'est-ce qui est ressorti concrètement de ces échanges-là? Est-ce qu'il y a eu un accord?
Concrètement, il n'y a pas eu signature d'accord, mais il y a eu des échanges francs entre le Premier ministre et les différentes communautés.
Vous avez parlé d'un chef Dogon qui aurait accepté de déposer les armes à condition qu'il y ait bien sûr plus de prise en compte de cette partie du Mali-là par le gouvernement central. S'est-il engagé publiquement?
Oui, il a intervenu, il a été clair aussi. Toujours, il tient aussi à ses propos. Il dit qu'il faut qu'il y ait quand même une sécurité totale, que la sécurité des populations quand même soit assurée par le gouvernement.
On sait que sous l'égide de l'ONG, le Centre pour le Dialogue Humanitaire, Peul et Dogon ont initié un processus de paix depuis 3 mois, mais les violences ont continué. Est-ce qu'il faut croire en ces paroles-là?
Oui, en tout cas, à la date d'aujourd'hui, on doit croire, puisque aujourd'hui, la branche armée du mouvement Dana Amasagou a eu à signer la semaine dernière quand même un engagement de cesser le feu unilatéral en faveur de la paix au niveau du centre du pays. Toutes les composantes de ce mouvement étaient là, notamment des chefs d'état-major, c'est lui-même qui a procédé d'abord à la signature, et aussi l'ensemble des présidents des coordinations des 4 cercles de la zone exondée de la région de Mopti, notamment Bandiagara, Douaza, Koro et Bankas. Donc chacun de ces présidents a signé cet engagement. Donc là, on peut dire que vraiment là, c'est sincère, les propos qui ont été tenus ces jours-là.
Est-ce que la solution ne serait pas le retour effectif de l'État malien dans cette partie du pays?
Effectivement, ça, c'est le souhait même de l'ensemble des acteurs quand même de ce conflit. Le chef d'état-major du mouvement Dana Amasagou l'a dit dans son intervention. Il dit aujourd'hui, leur souhait le plus ardent aujourd'hui, c'est qu'il y ait donc le retour effectif de l'État dans ces zones-là. Une fois que l'État est présent et ils n'ont rien à faire, là, ils vont rentrer à la maison.
Notre confrère Omar Guindo joint à Mopti.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le président Paul Biya, au pouvoir au Cameroun depuis 36 ans, fait face à 8 autres candidats à la présidentielle du 7 octobre. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Les femmes et bien sûr les jeunes constituent la majorité des potentiels électeurs. Qu'attendent les jeunes du président qui sortira des urnes? Notre envoyé spécial Bagassi Koura était hier matin sur le campus de l'université Yaoundé 1.
C'est la période de préinscription pour les étudiants sur le campus. Les discussions portent sur la prochaine rentrée universitaire, mais aussi sur la politique pour ces élections de dimanche. Certains y voient clairement une opportunité qui pourrait changer leurs conditions de vie.
On souhaiterait qu'il y ait plus d'emplois. Que de la vie économique, qu'elle soit meilleure, que la paix revienne dans les zones qui sont touchées par les crises politiques et les guerres. En fait, quand on retrouve le Cameroun, un Cameroun solide, où le vivre ensemble tient véritablement ses lettres de noblesse et qu'on puisse subvenir à nos besoins le plus aisément possible.
Ce que les étudiants demandent, c'est premièrement que les 50 000 soient supprimés, deuxièmement que la bourse revienne et qu'il nous soit possible de trouver du travail.
Paul Biya est au pouvoir depuis 36 ans et sera face dimanche à 8 autres candidats. Pour certains étudiants, le changement de leurs conditions de vie et de la situation générale du pays ne pourra se faire qu'avec un changement total des hommes à la tête du pays.
Nous sommes fatigués de 36 ans de règne. Nous ne sommes pas dans un royaume ici, nous sommes dans une république. Et nous pensons qu'après 36 ans, nous n'en voulons pas personnellement au président de la République. Nous pensons qu'il a suffisamment travaillé déjà. Il a 85 ans. Il est temps pour lui d'aller se reposer.
Parce qu'en fait, on ne peut pas continuer à rester avec un président qui a 86 ans, plus de 36 ans au pouvoir. Ça gêne de le voir avec des jeunes qui ont des diplômes passés par là, mais qui ne parviennent pas à trouver ne serait-ce qu'un emploi. Vous voyez la prolifération des mototaxis, des callbox.
Je veux qu'on change le système camerounais. Franchement, il faut que ça change, comme il nous l'avait dit, parce que nous souffrons entre nous les jeunes. Il y a trop de vieux dans les ministères et partout et consorts, mais les jeunes ne travaillent pas.
Mais à quelques pas du campus, Richard Mouiwo et son groupe d'une dizaine de supporters de Paul Biya font du porte-à-porte pour leur candidat.
On a vu que l'excellence Paul Biya était président de la République depuis 30 ans aujourd'hui. Ce qu'il a fait, il a fait beaucoup de choses. Donc on a pensé de lui soutenir, de lui donner la vote 100%. Parce que
la politique, les gars. La campagne qui s'achève ce samedi s'est jusque-là déroulée sans incident majeur, mais la participation des électeurs dans les deux zones anglophones qui connaissent un conflit sécessionniste reste la grande question de ce scrutin. Bagassi Koura, Yaoundé pour VOA Africa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Burundi, la loi autorise la présence des marchands ambulants dans les quartiers périphériques, mais pas au centre-ville de Bujumbura. Malgré tout, dans les rues de la capitale, des produits sont disponibles à bas prix. Le maire est catégorique que des raisons sécuritaires ont poussé les autorités à suspendre le commerce ambulant pour 3 mois. La population s'insurge contre cette mesure, nous dit notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Alice Senzokundwa est âgée de 23 ans et mère d'une fille. Elle habite la zone de Mouira sur les hauteurs surplombant la capitale. Chaque matin, elle descend avec ses produits vivriers pour les vendre dans les quartiers de Rohero, Kiriri, Nyakabiga, Biza et autres de la ville Bujumbura. Ils vendaient des arachides et des morceaux de manioc sur l'avenue de l'université. Quand VOA Afrique lui a demandé pourquoi elle ne va pas dans un des marchés reconnus par les autorités administratives, voici sa réponse.
Nous vendons ainsi dans la rue selon le capital dont nous disposons. Personnellement, j'ai un capital de 7000 francs burundais, moins de 5 dollars américains. Avec cet argent, je suis incapable de payer l'impôt pour le marché. C'est pourquoi je préfère être une vendeuse ambulante et je circule de quartier en quartier. Les agents de la police nous surprennent souvent et prennent tout notre pauvre capital. Mais souvent, il y a des clients bienfaiteurs. Quand ils voient que la police a pris tous mes produits et l'argent vendu, ils me donnent 10 000 francs burundais pour continuer mon activité et faire aussi vivre ma fille. Je demande aux autorités de nous venir en aide pour que la police ne nous maltraite plus.
L'histoire d'Alice Nzokundwa ressemble à celle des milliers de femmes burundaises qui se battent quotidiennement pour la survie de leur famille. Cette mère de 28 ans, Nira Mbewa, qui habite en quartier UP de Bujumbura, achète souvent les produits que font circuler ces vendeuses ambulantes. Témoignage.
Pour moi, tout ce qui peut favoriser la femme à se
se développer, à s'autonomiser. Je suis totalement d'accord. Compte tenu aussi de la pauvreté du pays, c'est la femme qui en est victime en premier lieu. Alors si la femme parvient à se lever, à être active, à essayer de sortir de cette situation de pauvreté, de vulnérabilité, moi j'encourage totalement la femme.
Cette autre femme qui n'a pas voulu donner son identité reconnaît que les vendeuses ambulantes rendent service aux clients.
Premièrement, je les aide dans leur épanouissement. Et moi, ça m'arrange quand je vais acheter quelque chose ou bien là où je veux. Je trouve ces choses dans un endroit qui n'est pas beaucoup plus loin et aussi à moins cher. Vu que les conditions d'aujourd'hui sont plus chères alors qu'on n'a pas de moyens suffisants. De deux, ça les aide dans leur nourriture.
Pour le maire de la ville de Bujumbura, une réunion sera prochainement programmée pour trouver une issue à ce problème, Freddy Mbolima.
Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de salubrité, nous avons demandé à ces femmes et aussi à d'autres commerçants ambulants d'attendre et d'exercer leur métier dans les différents quartiers. Mais le centre-ville, étant donné que c'est le miroir, nous avons demandé qu'on puisse discuter avec ces gens pour trouver une solution durable et pouvoir les encadrer efficacement pour ne pas retourner en arrière au point de vue sécuritaire et au point de vue salubrité.
Le porte-parole de la police indique que la police n'a pas interdit le commerce ambulant en mairie de Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités africaines, a été adoptée en mai 2000 par le Congrès des États-Unis et signée par le président Bill Clinton. Ce traité prendra fin en 2025. 18 ans après, l'AGOA a-t-il profité réellement à l'Afrique? Eric Manirakiza a joint à Dakar le responsable du cabinet Trade Up Africa qui aide les entreprises africaines à accéder au marché américain, Martha Cham.
Le pétrole en a vraiment bénéficié. D'ailleurs, c'est le pétrole qui faisait les deux tiers de l'exportation sur les États-Unis. Ça a ouvert le marché américain aux produits africains, aux pays africains qui faisaient du pétrole. Le textile aussi, au début, certains pays comme le Lesotho et autres en ont profité pour faire booster les exportations de textiles. Mais ces dernières années, on a noté une régression en termes de variété de produits. L'essentiel pour l'Afrique, c'était surtout les produits agricoles, aussi l'agriculture africaine, qu'on aurait dû booster pour profiter de la disponibilité des terres et des produits agricoles. Malheureusement, sur ce point, on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Les rares efforts qui ont été couronnés de succès, mais à une échelle assez réduite. L'enjeu maintenant, c'est l'industrialisation de l'Afrique, la capacité à pouvoir faire des produits manufacturés. À mon avis, c'est un bilan mitigé pour moi. L'esprit aussi dans lequel les Africains s'étaient engagés était plus dans une logique d'aide plutôt que d'utiliser une opportunité commerciale que la loi offrait.
Où est-ce que ça bloque exactement?
C'est au niveau de la conscience politique des gouvernements africains. Parce que dans la logique, la plupart des pays africains avec lesquels nous avons travaillé à l'époque avec l'USAID pour booster les exportations, les gens étaient plus dans une logique attentive de dire que c'était le gouvernement américain, au gouvernement de faire les efforts pour les pays africains. Alors que dans l'esprit des Américains, c'était plus donner une opportunité. Donc c'est ce changement de paradigme et de mentalité qui n'a pas été suffisamment pris en compte pour que les Africains eux-mêmes s'engagent et voient l'opportunité et développent leur propre stratégie de pénétration des marchés. Nous l'avons réussi sur certains produits.
Quels sont ces produits?
Sur le plan agricole, par exemple, je sais que pour l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des confitures qui ont été bien vendues aux États-Unis parce qu'il y a des foires là-bas, notamment les confitures, les jus. Et les hibiscus aussi, les nouveaux produits healthy, le moringa et autres, qui ont commencé à intéresser les produits ghanéens notamment, qui commençaient à traverser l'Atlantique. Et au niveau aussi des produits artisanaux, il y a eu un rush parce qu'on a utilisé le Burkina en tant que hub pour pouvoir inviter tous les producteurs africains artisanaux et qui ont été bien vendus et qui continuent d'ailleurs aujourd'hui. Ça se passe très bien. Au niveau aussi, je sais que du cosmétique, le shea butter, le beurre de karité, il y a eu beaucoup d'acquis et les noix de cajou aussi ont beaucoup profité de ces opportunités.
Et la tchéquée?
La tchéquée, on a pu faire des packagings adaptés aux normes et ça a commencé à intéresser des restaurants africains au départ et qui ont commencé aussi à intéresser le public américain à ces genres de produits.
Joint à Dakar, Martha Cham, responsable du cabinet Trade Up Africa.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de lutte contre le VIH-Sida et du phénomène des perdus de vue.
Il s'agit des personnes dépistées positives et qui ne sont pas revenues en consultation depuis plusieurs mois avant ou après avoir commencé le traitement.
Pour comprendre les raisons d'être de ce phénomène, nous recevrons comme invité Israël Ganoé, secrétaire général du réseau ouest-africain des organisations des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Nous écouterons aussi le docteur Frank Kassissa, médecin généraliste en RDC. Il nous parlera des conséquences pour ceux qui ne prennent pas ou arrêtent de prendre leur traitement.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.